Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Academy. Aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat avec la Revue des Deux Mondes, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Crépu.
Bonjour.
Bonjour Michel. Donc je rappelle à nos auditeurs que vous êtes rédacteur en chef de la Revue des Deux Mondes et vous venez nous présenter ce mois-ci, donc le numéro de décembre. Numéro très riche, riche en rencontres, comme l'indique le titre, puisque c'est rencontre d'une fin d'année. Très bonne initiative d'ailleurs.
Oui, oui, vous savez, parfois on se dit que finalement les rencontres et ce qui passe à travers les rencontres n'a pas forcément besoin de bénéficier en plus d'un thème, d'un dénominateur commun un peu artificiel. Et là, ce recueil de rencontres finalement peut, j'allais dire, très bien vivre sans dénominateur commun, sinon celui de la passion de tous ces gens qui ont été sollicités, enfin qui sont présents dans ce numéro. Ça va de la romancière slovène Brina Svit à l'ancien ministre Edgar Pisani, en passant par l'actuel Henri Guénaud, Vincent Tanzali, qui a publié chez Gallimard une autobiographie algérienne qui raconte ses années d'adolescence avec son père assassiné par les militants du FLN alors qu'il était lui-même partie prenante dans la décolonisation. Enfin bon, la scientifique Michèle Leduc, qui a... Tous ces gens n'ont rien en commun, sinon d'avoir passionnément vécu leurs propres expériences et de la vivre et de les vivre encore, du reste.
Alors, au sein de ces rencontres, la première se distingue un peu et constitue en elle-même un événement, puisque vous publiez, vous retranscrivez la dernière interview donnée par Solzhenitsyn au journal allemand Der Spiegel.
Oui.
Il n'a rien perdu de sa force, en tout cas, à 88 ans.
Oui, absolument. C'est une opportunité là, qui nous a été offerte par Claude Durand, donc l'éditeur de Solzhenitsyn, comme vous savez. Et quand j'ai lu cet entretien qui a été réalisé par les collègues du Spiegel en juillet dernier... J'ai vu que, en effet, Solzhenitsyn était complètement encore présent à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et en Russie en particulier, bien entendu, contrairement à une certaine opinion, enfin, selon laquelle il serait tout à fait hors course. C'est vrai qu'il est très âgé maintenant, fatigué, même un peu malade et tout, mais on voit bien là qu'il reste extrêmement attentif.
Alors, c'est étonnant parce que le journaliste allemand l'interroge sur les trois dernières présidences de la Russie.
Ouais.
On le sent assez indulgent vis-à-vis de Gorbatchev, sévère à l'égard d'Eltsine, et finalement favorable à Poutine.
Très poutinien, oui, oui. Ça surprend un lecteur européen, enfin habitué évidemment à entendre dans la bouche de Solzhenitsyn, l'auteur de l'archipel du Goulag, des propos aux anciens élèves du KGB, si je puis dire, puisque c'est tout à fait le cas de Poutine. Mais il y a une chose qui est très importante, qu'il faut jamais oublier, c'est que le critère fondamental dans l'esprit de Solzhenitsyn, c'est quand même l'attachement à la Russie. Et je crois que il trouve chez Poutine un souci identique. On avait d'ailleurs abordé cette question, je me souviens, lors d'une de nos dernières conversations à propos d'un article de François Bugeaud de l'Étang sur la Russie, où il apparaissait que il y a une sorte d'enjeu de fierté après des années et des années de destruction insensée. Il y a une question posée à la Russie aujourd'hui de renaissance, de pouvoir vivre fièrement à l'égard d'elle-même et à l'égard des autres. Et à tort ou à raison, je ne me sens pas du tout en mesure de juger de cela, mais je crois que Solzhenitsyn voit en Poutine quelqu'un qui est conscient de ça, qui est conscient de ça. Alors, ça peut choquer, encore une fois, parce que quand... Mais je me souviens, ça me rappelle aussi une conversation que j'avais eue il y a un an ou deux avec Nikita Struve, qui a été l'éditeur de l'archipel du Goulag, le premier éditeur de l'archipel ici à Paris, qui est un ami intime de Solzhenitsyn. et à qui je faisais remarquer que Poutine paraissait quand même un singulier amateur de démocratie, et il m'avait répondu assez sèchement, disant, mais est-ce qu'on dit de M. Bush, qui était un ancien fonctionnaire, M. Bush père, un ancien fonctionnaire de la CIA ou quelque chose comme ça, est-ce qu'on fait des remarques à ce sujet? Non. Alors pourquoi faudrait-il en faire Alors, bon, je pense que, encore une fois, tout ça doit être mesuré à l'échelle du lien affectif, plus qu'affectif, le mot affectif est très faible, du lien consubstantiel que ce Solzhenitsyn a avec la Russie.
Oui, tout à fait. Et de notre vision aussi, que nous, on a, qui est décalée, voilà. Forcément.
Complètement.
Avant d'en venir au dossier central et ces rencontres, j'aurais voulu qu'on dise deux mots aussi de l'article très intéressant de Jean-Louis Thiriot, qui est parti de l'exemple de l'Empire austro-hongrois d'avant 14, pour montrer que des peuples différents pouvaient être liés les uns aux autres bien plus par un lien culturel que par une construction politique. Ça laisse à réfléchir sur la construction européenne d'aujourd'hui, bien
oui,
sûr.
Oui, c'est un article en effet très intéressant pour signaler que ces jours-ci, là, Jean-Louis Thiriot a obtenu un prix de la biographie pour une biographie qu'il a fait paraître l'année dernière sur Margaret Thatcher, ce qui nous éloigne un peu.
Il avait eu un prix de l'Académie pour sa biographie sur François Ferdinand.
D'accord, alors voilà. Donc tout se tient. Moi, je suis très sensible à cette démarche qui consiste à réfléchir l'héritage européen à la lumière de ce modèle impérial, entre guillemets, en effet, a eu cette vertu pendant un long moment de pouvoir, au fond, faire exister la mosaïque, en effet. Et au fond, servir d'antidote, si je puis dire, au démon national qui s'est emparé de cette même région d'Europe dès lors que l'Empire était effondré. Et je pense que ce modèle qu'étudie dans son article Jean-Louis Thiriot est inséparable, en effet, d'une substance culturelle, littéraire, religieuse, artistique. Et on le voit bien, d'ailleurs, quand on lit les ouvrages, je pense notamment à ce merveilleux livre de Stefan Zweig, Le Monde d'hier, qui, bien sûr, est au fond une illustration littéraire de ce qu'étudie Thiriot.
Alors maintenant, on va peut-être passer au dossier central, donc sur ces rencontres, et on va, honneur au doyen, on va commencer par Edgar Pisani, donc ancien ministre de De Gaulle, résistant, ancien ministre de De Gaulle, de Mitterrand. Donc là aussi, à 89 ans, il est encore très actif et très axé sur la réflexion et la réforme.
Oui. Alors moi, j'aime beaucoup cet entretien parce que je pense que c'est à l'évidence lié à la personnalité même d'Edgar Pisani, mais il a cette capacité de parler, d'évoquer l'esprit réformiste ou l'esprit de la réforme avec en même temps une ardeur qui fait qu'on n'est pas dans le tiède. Il démontre que l'on peut avoir le souci de la réforme et donc d'une certaine modération, un certain souci d'équilibre, sans pour autant glisser dans le tiède et dans le mollasson qui parfois affecte le propos comme ça un peu lénifiant, bon, qui ont ce même souci. C'est pas du tout son cas. Donc, je pense que c'est aussi lié justement à son expérience politique, à ce qu'il a pu en retirer comme leçon.
Il a l'air très axé sur l'éducation en ce moment.
Et l'éducation, oui, en effet, l'entretien se termine d'ailleurs sur un plaidoyer bien caractéristique d'un homme pour qui l'esprit des Lumières aussi est certainement une colonne vertébrale, un vecteur.
Alors on le sent très, très fidèle à ses idées, ses idées de gauche.
Oui, bien sûr. Oui.
Mais aussi très inquiet d'ailleurs par la gauche actuelle.
Ben oui, on peut comprendre en effet qu'il soit un petit peu inquiet, il n'est pas le seul, devant une incapacité manifeste à trouver la colonne vertébrale ou le vecteur qui permet à la fois de garder un souci du réel et donc de ne pas s'embarquer dans des chimères et en même temps d'avoir aussi la flamme. Un esprit d'utopie, enfin quelque chose qui aussi vous emmène et vous sert d'énergie pour affronter les questions du jour le jour.
Alors on va rester dans le domaine politique maintenant avec Henri Guénaud, plus à droite là cette fois-ci, puisque c'est donc le rédacteur des discours de campagne de Nicolas Sarkozy et conseiller spécial maintenant à l'Élysée.
Oui, alors là aussi on voit dans le cadre d'Henri Guénaud, au fond, une conception de la politique directement connecté au fond à l'action, enfin, c'est-à-dire que à quoi sert, je le cite de mémoire, mais à peu près, il dit un moment dans cet entretien, mais à quoi sert la politique si elle n'est pas un moteur de changement, d'évolution, etc. Alors, on reste dans le blabla, dans le discours, et puis, non, il y a ce lien évident, enfin, presque comme un muscle, je ne sais pas, un organe, un lien organique qui relie la pensée politique, l'analyse politique qu'on peut faire d'une telle ou telle situation et la capacité d'agir. Voilà. Donc, ça a peut-être ses limites, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me semble très cohérent.
En tout cas, il y croit.
En tout cas, il y croit.
Ce qui est encourageant déjà.
Et donc, oui, c'est assez remarquable.
Ouais, alors on va peut-être passer un peu à autre chose, changeons de la politique. Un des entretiens qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est Michèle Leduc, et c'est donc, qui est physicienne, spécialiste d'atomique quantique et laboratoire Kastler-Brossel. Et là aussi, elle dirige une équipe de recherche, elle fait part de ses découvertes. Et quel beau parcours. Et on en revient à votre dernière phrase de votre édito, qui est donc de personnes qui vivaient avec passion ce qui a donné forme à leur existence. Et elle illustre totalement ce parcours-là.
Oui, absolument. Et puis alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup touché dans son propos, c'est l'accord qu'il y a entre l'activité professionnelle, qui est donc totalement dédiée à la recherche, et quand on sait ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire 24 heures sur 24, en réalité. Mais l'accord qu'il y a entre donc cette expérience et puis une sphère plus privée, plus intime, où la musique a un rôle, le fait de jouer du piano pour elle-même le soir, un peu de Chopin comme ça entre. Bon, j'aime beaucoup ce que ça révèle aussi de quelqu'un, ça, ce ressourcement discret, cette présence de la beauté comme ça dans une activité extraordinairement gouvernée par la rigueur, le temps investi, etc. Donc, ça a beaucoup de prix, je trouve.
Alors le temps passe toujours très vite. Et avant de se quitter, quand même, je voudrais qu'on évoque une des rencontres de votre journal littéraire. Cette fois-ci, c'est Michel Zinc, qui est donc membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres et qui vient de sortir un roman, Un portefeuille toulousain.
Oui, alors j'étais très content parce qu'en réalité c'est un projet que j'avais depuis longtemps de rencontrer Michel Zinc et de le rencontrer pour la revue, grand connaisseur de la littérature médiévale et qui là a publié donc chez Bernard de Falloy, son éditeur, un roman qui se passe pas du tout au Moyen-Âge mais qui se passe dans le Toulouse de l'occupation, plus exactement des années qui suivent l'occupation, et donc qui met en scène une histoire de portefeuille ayant appartenu à une notabilité et qu'on a trouvé dans un endroit peu recommandable puisque il s'agit d'un bordel. Donc le cadre est dessiné, si vous voulez, donc on peut comme ça se livrer à une sorte d'exploration des tenants et aboutissants de la bourgeoisie de ce temps-là. Et ce qu'il y a de bien dans le livre de Zinc, c'est que justement on échappe complètement à la caricature. Si vous voulez. La donne de départ est assez provocante et peut très bien renvoyer à certains autres souvenirs littéraires du côté de Mauriac ou autre. Mais il en a fait quelque chose qui complexifie justement, qui nuance, enfin qui approfondit ce portrait au fond qu'il fait de la bourgeoisie française, si facilement sujette à la caricature. Donc je trouve ça plein de finesse et d'humour et c'était le prétexte, si vous voulez, à cette rencontre. Et puis à échanger avec Michel Zinc sur cette relation assez contradictoire qu'il évoque du public d'aujourd'hui vis-à-vis du passé et de l'histoire. Frénésie de passé qui, en même temps, ne débouche pas forcément sur une vraie relation à la mémoire.
Enfin, oui, et lui est très inquiet, surtout du manque de littérature.
Enfin, du manque de littérature, comme si les gens cherchaient autre chose que l'expérience qu'entraîne la fréquentation de la littérature qui oblige à sortir de soi, qui implique un rapport au monde différent. Là, on est plutôt dans une espèce de fantasme des origines, côté Dan Brown, le côté...
Et au contraire, très centré sur...
Très centré sur
très
soi.
Très fermé sur soi. Ouais.
Très fermé sur soi. Et donc, qui finalement, effectivement, se trouve peut-être... en dépit des apparences très éloignées de ce que pourrait être une véritable relation à l'histoire et au passé.
Alors malheureusement, nous n'avons pas le temps d'évoquer tous les articles de la revue.
Très, une telle richesse.
Exactement, exactement. Donc je renvoie nos auditeurs au numéro de décembre, Rencontre pour une fin d'année, disponible en kiosque ou en librairie, mais aussi sur le site internet larevuedesdeuxmondes.fr. Je vous remercie beaucoup Michel,
c'est
et je vous dis à l'année prochaine.
Mais oui,
au revoir.
Bien l'année.